De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Paris d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On est de retour et effectivement, c'est inquiétant de voir ce qui se passe lorsqu'on surveille un petit peu les nouvelles internationales depuis quelques semaines. En fait, depuis son élection, frasque après frasque, il est frondeur, il a un caractère particulier et il a de la difficulté à travailler en équipe, semble-t-il. Donald Trump, le nouveau président américain, qui maintenant garde tout le monde sur le qui-vive, autant du côté de la Syrie que du côté de la Corée du Nord. Les gens se posent la question, y a-t-il lieu de s'inquiéter d'un troisième conflit mondial? On en parle avec notre spécialiste, notre observateur de la scène internationale, Hubert Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Hubert Vallée, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter?
Non. Bon. Pour la bonne raison que la Troisième Guerre mondiale est impossible. Je vous rappelle ce qui l'empêchait en 1945, et Dieu sait s'il y avait une tension entre soviétiques et américains, c'est les armes nucléaires. On peut tout faire avec une arme nucléaire, sauf s'en servir. Après ça, il y a eu des conflits sérieux. La Corée, le Vietnam, Moyen-Orient, etc. Mais jamais on n'a pu en découdre. Sinon, c'est la fin du monde, et tout le monde le sait.
Est-ce que les gens ont raison quand ils disent que ce gars-là, il y a le droit, il y a les codes, est-ce qu'il peut vraiment déclencher une arme nucléaire simplement par sa propre décision?
Non, absolument pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'arme absolue, c'est les sous-marins nucléaires qui peuvent plonger pendant 70 jours sans qu'on puisse les repérer, qui envoient des missiles à plus de 20 000 km qui peuvent détruire la moitié d'un continent. Il y a toute une procédure. On voit dans certains films à l'eau de rose un capitaine fou qui est proche de sauver et qui est évidemment empêché par le héros du film. En réalité, c'est pas possible. Il y a un code extrêmement précis, très difficile à appliquer. Et il y a toujours la ligne rouge directe entre Washington et Moscou pour empêcher tout dérapage.
Mais il y a quand même, on a eu un bombardement, je sais pas comment le qualifier, là, avec des produits chimiques, avec des armes chimiques. Il y a eu des bombardements qui ont été faits, qui ont laissé beaucoup de morts. C'est quand même des mesures extrêmes. Il y a eu la réaction des États-Unis avec un village, ben pas un village, un aéroport qui a été bombardé par mesure de représailles. C'est quand même sérieux là, comme confrontation. Puis on est dans un coin de pays où c'est chaud.
Chaud, mais contrôlé. Évidemment, c'est une énorme gaffe du régime syrien. Déjà en 2013, en employant les gaz, il avait été sauvé justesse de Poutine, qui avait dit à Barack, pas d'intervention, même l'Angleterre, la France était prêt à embarquer et autres.
D'ailleurs, tout le monde lui reproche de ne pas l'avoir fait.
Effectivement, c'était un point faible de sa présidence. Et on a récidivé. On ne sait pas si Bachar a donné l'ordre, si d'autres ont voulu le court-circuiter. Le résultat était désastreux. Ouais. Je suis sûr que les Russes étaient furieux après lui. Ils ont sauvé la mise. C'est une bavure monumentale. Il faut reconnaître que le président américain a fort bien réagi. Et il a fait, le coup de règle efficace en prévenant les Russes pour pas qu'il y ait de pertes russes. Le minimum de morts, frappé de manière énergique. C'était le premier beau coup de sa présidence.
Est-ce que les Russes vont continuer à appuyer la Syrie?
Ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas oublier qu'un État n'a pas d'amis. Ils peuvent se débarrasser de Barack, ça n'a pas d'importance. C'est de plutôt de Bachar, trouve un autre. Un État n'a que des intérêts.
Ouais.
Et l'intérêt de la Russie, c'est d'être présent dans cette région et d'avoir un port libre, sa Méditerranée, à l'année longue. Ils ont perdu ceux qu'il y avait en Libye, ceux qu'il y avait en Algérie et dans d'autres pays. C'est le seul allié qui leur reste autour de la mer Méditerranée, dégagé des glaces à l'année longue. Et ils veulent également influer sur la région, pour le moins très compromis. Pensez où est située la Syrie, Turquie au nord.
Ouais.
Le moins qu'on peut dire, évidemment, c'est agité avec Erdogan, qui devient de plus en plus dictatorial. L'armée turque est la deuxième armée de l'OTAN. Est en train de leur échapper complètement. Ouais. L'Irak est une poudrière. Et les pays voisins, Jordanie et autres, qui subissent l'afflux de millions de réfugiés syriens. C'est une véritable poudrière. Et la guerre en Syrie dure depuis plus de 6 ans. C'est la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 400 000 morts. Dans un pays de 17 millions d'habitants, ce qui est énorme.
Bachar el-Assad, c'est avec, d'ailleurs aussi, Kim Jong-un et Donald Trump, trois personnalités qui se foutent pas mal des convenances et des conventions et qui font ce qu'ils veulent. Bachar el-Assad, qui est un tyran qui crée des génocides carrément, là, qui tue sa propre...
Moi, des tueries.
Des tueries, là, assez de 400 000 personnes.
Et irrationnel, c'est ça qui est dangereux.
C'est irrationnel. Ben, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui fait qu'on a peur que un ou l'autre, ou les trois ensemble, finissent
mais
par
les trois ont
déclencher
balises.
Quelque chose.
Bachar, c'est les Russes qui le contrôlent. Il peut rien faire sans la présence russe. C'est eux qui le maintiennent. Les bombardements contre Al-Qaïda, contre l'armée islamique, se fait avec des avions et d'armes russes. C'est eux qui le soutiennent. Sans les Russes, le régime s'effondre. Ensuite, en ce qui concerne la Corée du Nord, ils sont largement tributaires de la Chine. C'est la Chine qui les nourrit. Une population affamée est extrêmement dangereuse. Je rappelle la Révolution française, chinoise, soviétique ont commencé par des grandes famines dans le pays. Ensuite, les États-Unis, c'est la séparation des pouvoirs. Le président peut frapper en cas de crise, comme Kennedy avait beaucoup de latitude lors de la crise des fusillés d'octobre 62. Par contre, pour envoyer des troupes au sol, pour déclarer la guerre, ça prend les deux tiers du Sénat et la majorité de la Chambre des représentants. Donc, les trois ont des balises qui les empêchent d'aller trop loin, que ça leur plaise ou non.
Donc, ces balises-là leur enlèvent le danger qu'on craint, là. Finalement, à cause de ce que vous venez de dire, ces gens-là, ces pays-là, avec les dictateurs à leur tête, ne sont pas vraiment dangereux parce qu'ils sont « contrôlés », entre guillemets, par les pays dont on vient de parler.
Ils sont dangereux quand même pour leur peuple. Bachar, pour ceux qui l'ont connu lors de ses études à Londres, c'est un caractériel extrêmement difficile à contrôler.
Ouais.
Évidemment, l'emploi d'armes chimiques et d'autres armes de destruction massive montrent évidemment un régime absolument impitoyable vis-à-vis son peuple. Kim Jong-il est complètement difficile à cerner. C'est le fils à papa, de petits-fils et autres. On ne sait pas qui l'entoure dans l'armée coréenne.
Il veut faire sa place.
Oui.
Puis il en impose, mais il n'y a pas le...
Non. C'est beaucoup de simagrées. Vous remarquez
l'envergure
quand
de son père.
Il apparaît aux actualités, entouré de généraux avec des superbes casquettes à la russe, à la soviétique. On n'entend jamais un mot. Il gesticule. Il est assis, les autres debout. L'écoute religieusement. Son peuple n'a jamais entendu sa voix. Une seule fois. Aucune allocution, il n'a jamais été élu et autres. C'est un des fils que son père avait désigné à sa mort pour lui succéder. Comme je l'avais dit, il dépend largement de la Chine. Or, la Chine, s'il pouvait s'en débarrasser sans compromettre le régime, il le ferait volontiers. Contrairement à ce qu'on peut penser, la Corée du Sud est peu intéressée par l'unification. Certes, c'est le même peuple, même tradition, même langue, séparée depuis 1952. Par contre, il y a un tel fossé entre les deux Corées que ça coûterait, une fortune à la Corée du Sud pour rétablir l'équilibre. Et ils ne veulent absolument pas s'engager dans une crise économique.
Au niveau des relations internationales, est-ce que les États-Unis se retrouvent dans un contexte sans précédent? Est-ce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, ça s'est déjà vu, ou si vraiment c'est particulier ce qui se passe actuellement?
Les États-Unis sont la première puissance occidentale. Il est normal qu'ils prennent des décisions. Et d'ailleurs, les principaux dirigeants occidentaux, tous, ont appuyé la position de Trump. Donc, il ne faut pas que ça aille trop loin, mais entièrement d'accord pour l'intervention que les Américains ont fait. L'armée américaine est la seule armée...
Au niveau de Bachar el-Assad,
au niveau
de la Corée.
Pour cette intervention modérée, j'en veux dire, sur une base militaire. En Corée du Nord, il va falloir qu'ils jouent très subtilement avec les Chinois. Par contre, les Chinois sont des gens pragmatiques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une explosion à ce côté-là.
Leur patience doit avoir des limites quand même.
Non, les Chinois sont plus agacés. Les Chinois, premièrement, à part le Tibet qui ont écrasé ou ils ont pratiqué un véritable génocide, les Chinois interviennent de manière commerciale à l'étranger, mais jamais du point de vue militaire.
Ouais, puis place Tiananmen aussi qui...
Oui, ça c'est le massacre de son peuple, effectivement. Ouais, un régime autoritaire, faut pas se leurrer.
Okay. Du côté de Donald Trump, cependant, est-ce qu'il a véritablement l'appui de son parti? D'une part, complètement son parti, parce que je pense que c'est complètement divisé. Le pays a jamais été aussi divisé qu'il l'est maintenant.
C'est totalement séparé, la Constitution américaine. On l'a voulu dès le départ, qu'il y ait un exécutif présidentiel, un législatif, le Congrès, et le judiciaire, la Cour suprême. Un président doit toujours négocier pour faire passer ses projets de loi. même à l'intérieur de son parti, et Donald Trump n'est même pas un politicien professionnel, n'est même pas un homme politique du sérail du Parti républicain. Il y a beaucoup d'ennemis, ne serait-ce que ceux qui ont battu aux primaires, etc. Et finalement, il doit toujours négocier. La moindre action demandant un financement doit avoir l'appui également du Sénat, ce qui n'est pas facile à obtenir. Ensuite, il y a la Constitution américaine, dont le juge, plutôt la Cour suprême, est la garante. Il ne peut pas passer outre.
Mais ces gens-là vont finir, eux aussi, par perdre patience, parce que j'imagine qu'il y a, il agit tellement de façon impulsive et de façon enfin, il lance toutes sortes de choses. Il mène son pays à coups de tweets sur les réseaux sociaux. Ouais. Il se soucie peu de l'impact.
Mais il recule souvent, hein?
Puis il recule ensuite, oui.
C'est beaucoup d'effets de manche et c'est un début de mandat. Un président, au début de mandat, doit faire sa marque. Ouais. Il a tenté beaucoup de choses. Il a reculé, modifié ses lois sur l'immigration quand il s'est rendu compte. Et l'attaque au gaz faite par le régime syrien est une véritable bénédiction pour lui.
Ben oui, c'est une
ça
grosse
lui a permis guerre, ça, de s'affirmer. Il est beaucoup plus crédible maintenant. Ouais. Et il va prendre ses balises. C'est certain que les premiers mois, un président montre que c'est le maître, qu'il doit agir, qu'il a une latitude. Il pouvait surtout pas faire l'erreur de ne pas agir en riposte à l'attaque au gaz.
On va peut-être dormir un petit peu mieux après vous.
Je l'espère. De toute façon, il n'y a pas d'inquiétude. Et il vient à peine de commencer sa présidence. Il peut nous surprendre.
Ça risque d'être long, 4 ans, par exemple.
Ben, il y a de l'action. Mais encore une fois, ce qui est terrible, c'est que en politique, on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne contrôle jamais tout.
Exactement. Hubert Vallée, merci beaucoup de vos lumières. C'est fort intéressant
plaisir.
À nouveau.
Ouais.
Merci. Là-dessus, on va rejoindre notre collaborateur de la semaine, Yves Bérard, tout de suite après ceci.